RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli. À moins de 24 heures de l'entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hamas.
Oui, l'accord validé hier soir par le gouvernement et le cabinet de sécurité israélien prévoit l'arrêt des combats à Gaza, des libérations échelonnées d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Nous sommes à Tel Aviv dans un instant. Et puis vous entendrez l'espoir, mais aussi l'angoisse immense de Daniel Scheck, l'un des représentants du Forum des familles des otages. Autre compte à rebours dans l'actualité. Washington qui se prépare à l'investiture de Donald Trump. Donald Trump qui multiplie les menaces d'imposition de taxes douanières, y compris envers ses alliés. Ce n'est pas nouveau et pas forcément efficace d'un point de vue économique. Ce sera le dossier de ce 8h. À suivre également des extraits de lettres et journaux intimes de combattants nord-coréens qui se battent aux côtés de la Russie contre l'armée ukrainienne. Le récit de Nicolas Roca. Et puis on prendra la direction de Ouagadougou à la fin de ce journal. La 13e édition du film Fido, le festival international de danse de Ouagadougou, débute aujourd'hui. Festival gratuit et qui se tient jusqu'à jeudi.
Le compte à rebours a débuté au Proche-Orient.
Et les habitants de Gaza, les familles d'otages israéliens, les proches de prisonniers palestiniens retiennent leur souffle après 15 mois de guerre. Le gouvernement israélien et le cabinet de sécurité ont donné ces dernières heures leur ultime feu vert à l'accord de trêve avec le Hamas. C'est prévu pour ce soir minuit au menu des libérations d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Nicolas Falaise, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. On en sait plus ce matin, Nicolas, sur le déroulement de cette première journée de trêve.
Oui, dès demain dimanche, toutes les opérations militaires sont en principe suspendues. L'armée israélienne se retire partiellement de la bande de Gaza et l'aide humanitaire doit commencer à entrer massivement dans le territoire. Dimanche toujours, le Hamas palestinien est censé libérer 3 otages. On évoque 3 femmes soldates israéliennes. Et un premier groupe de détenus palestiniens doit retrouver la liberté au même moment. Si tout se passe comme prévu, on sera alors au premier jour de la première phase du cessez-le-feu, une phase de 6 semaines durant laquelle 33 otages israéliens et 737 détenus palestiniens doivent être libérés progressivement par petits groupes à plusieurs jours d'intervalle.
Et au total, Nicolas, cet accord avec le Hamas comprend 3 phases.
Oui, le contenu et le déroulé exact de la seconde phase seront discutés dans un peu plus de 2 semaines. Il s'agira là encore de programmer des libérations, des replis militaires israéliens, la liberté de mouvement des Gazaouis et à terme la reconstruction de Gaza. C'est dire si on entre dans une chorégraphie millimétrée, un calendrier à risque, un processus qui peut dérailler à chaque étape. C'est d'ailleurs ce que redoutent tous ceux qui, à Gaza comme en Israël, attendent la fin d'un cauchemar de 15 mois.
Et Nicolas Falaise, envoyé spécial d'RFI en direct avec nous de Tel Aviv. On parlait de ces libérations qui vont s'échelonner sur plusieurs semaines. Des familles qui vont donc attendre dans l'angoisse un texto, un appel confirmant ou non une libération. L'incertitude demeure. On ne sait pas si les 33 otages libérés lors de cette première phase sont tous en vie ou non. Écoutez, Daniel Scheck, c'est l'un des représentants du Forum des familles des otages israéliens.
Je pense qu'il y a d'abord une énorme joie qu'un accord soit conclu. C'est la première bonne nouvelle depuis vraiment très très longtemps pour, disons, la communauté des familles d'otages. Maintenant, une fois qu'on décortique un peu, c'est évidemment plus compliqué que ça. Il y a la joie de voir dès dimanche les 3 premières otages montées dans une voiture de la Croix-Rouge et être rapatriées après plus que 15 mois de calvaire. Mais il y a évidemment aussi des inquiétudes de certaines familles, même si elles voient le nom de leurs proches sur la liste, et ne savent pas dans quel état la personne sera. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle est en très mauvaise santé? Donc c'est un vrai mélange. L'anxiété n'est pas terminée, elle a juste changé de caractère un peu. Mais au moins, il y a un souffle d'espoir qui a vraiment manqué pendant ces derniers mois.
Daniel Scheck, représentant du famille des familles du Forum des familles des otages, qui est aussi ancien ambassadeur d'Israël en France. Je rajoute que selon Paris, deux franco-israéliens figurent au sein de la liste des 33 premiers otages libérables. On va suivre évidemment sur RFI cette première journée de trêve qui doit donc débuter demain.
Un accord, Jeanne, auquel a participé activement l'équipe de Donald Trump.
Mais des négociateurs qui ont travaillé main dans la main avec l'administration de Joe Biden, des libérations pourraient intervenir la veille donc de l'investiture de Donald Trump. Lundi, une victoire politique évidemment pour débuter ce mandat. Et on va parler ce matin de la méthode Trump. Alors pas sur les dossiers diplomatiques, mais sur les dossiers économiques. C'est le dossier de ce 8h avec Anne Verdaguer du service économie d'RFI. Anne, Donald Trump menace d'imposer des taxes douanières de 25% sur les produits mexicains et canadiens, surtaxer aussi les produits chinois. Et Anne, vous nous dites qu'on connaît déjà cette recette.
Oui, ce recours à la menace de rétorsion économique pour arriver à ses fins n'est pas nouveau. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà utilisé cette stratégie en taxant la Chine. Mais le président élu parle d'aller beaucoup plus loin. En visant le Canada et le Mexique, il balayerait d'une main l'accord de libre-échange qu'il a lui-même renégocié avec ces deux pays. Une posture qui peut paraître contre-productive, mais qui a, semble-t-il, déjà fait ses preuves. Jérémy Guez, professeur d'économie à HEC Paris.
La posture, on la connaît depuis assez longtemps et notamment depuis son premier mandat. C'est quelque chose qu'il a théorisé en plus depuis un certain nombre d'années, cet ancien géant de l'immobilier new-yorkais, qui est de dire au lieu de rentrer dans une négociation comme on pourrait le faire, nous, Européens, avec l'idée de chercher un compromis, lui, il y rentre avec l'objectif de faire plier l'adversaire.
Alors, faire plier l'adversaire, Anne, mais dans quel but et quelles sont les conséquences ?
Clairement, tous les analystes le disent, cela ne bénéficiera pas aux États-Unis, car si ces droits de douane venaient à être appliqués, la facture serait salée pour les Américains, 640 milliards de dollars de surcoût pour l'économie du pays et une inflation qui repartirait de plus belle. Mais on l'a compris, il s'agit plutôt d'une forme d'intimidation et surtout d'un message envoyé aux autres pays que la seule chose qui compte, c'est America First, peu importe les alliances et les liens historiques. Jérémy Guez.
C'est un nouveau chapitre de la mondialisation qui est en train de s'ouvrir. Dans le monde d'hier, le libre-échange, c'était une question purement économique qui était censée être une question gagnante-gagnante pour toutes les parties prenantes. Là, désormais, il y a un certain nombre de pays qui adoptent un langage un peu différent, et c'est certainement l'Amérique de Donald Trump, plutôt centré sur les questions d'autosuffisance, sur les questions de souveraineté et sur les questions de rivalité, en fait, entre puissances. Donald Trump, pour lui, l'économique, c'est une extension du politique et vice-versa.
La question reste de savoir si Donald Trump mettra ses menaces à exécution une fois au pouvoir. Il a en tout cas été élu en grande partie sur ses promesses de protectionnisme débridé.
Anne Verdaguer du service économie d'RFI, merci. Dossier que vous retrouvez d'ores et déjà sur RFI.fr.
Et y aura-t-il un effet Trump sur le front de la guerre en Ukraine ?
Le président américain s'était vanté pendant sa campagne de résoudre le conflit en 24 heures. Depuis, il a modéré son ton, rencontré aussi Volodymyr Zelensky à Paris. Sur le terrain, l'armée russe a frappé ce matin la capitale ukrainienne Kiev. Il y a au moins 4 morts, annonce l'administration militaire de la capitale ukrainienne.
Justement, quelques pages griffonnées en coréen, retrouvées sur des corps de soldats.
Ces dernières semaines, les forces spéciales ukrainiennes ont publié des extraits de journaux de bord de combattants nord-coréens qui se battent aux côtés des troupes russes dans la région de Koursk, où l'Ukraine mène toujours une incursion. Kiev et son allié américain estiment à 12 000 le nombre d'hommes envoyés par Kim Jong-un pour soutenir la guerre de Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce que ces pages racontent du quotidien de ces soldats partis combattre à près de 7 000 km de chez eux ? Élément de réponse avec Nicolas Roca.
Un nom coréen sur de faux papiers militaires russes déposés sur un corps sans vie, au visage flouté. Dans une lettre émouvante, un soldat souhaite un joyeux anniversaire à son meilleur ami. Un autre, dans son journal de bord, écrit sa dévotion à son pays. Même au prix de ma vie, je suivrai les ordres du leader suprême sans la moindre hésitation. Autant d'images publiées par les renseignements ukrainiens qu'a analysé Anton Sokolin du site spécialisé sur la Corée du Nord, NK News.
C'est très dur d'identifier d'identifier si ces documents sont authentiques et s'ils appartiennent vraiment à des soldats nord-coréens morts sur le front durant la guerre en Ukraine.
Ces différentes notes, il les a fait analyser par un transfuge nord-coréen qui les juge cohérentes, mais d'autres remettent en cause leur authenticité. C'est donc avec une grande prudence qu'Anton Stokoling interprète les informations qu'elles comportent.
Ces journaux de bord expliquent par exemple comment réagir durant une attaque de drone. On sait qu'une personne doit appâter le drone par exemple, tandis que les deux autres vont le cibler et essayer de l'abattre.
Si ces documents sont bien authentiques, ils attesteraient de l'effort des formateurs nord-coréens pour préparer les soldats aux difficultés de la guerre moderne que ces milliers de Nord-Coréens découvrent dans la région de Koursk.
Nicolas Roca du service international d'RFI. En bref, le président sud-coréen suspendu Yoon Suk-yeol est arrivé ce matin au tribunal de Séoul, un tribunal qui doit se prononcer sur la prolongation de sa détention après son arrestation pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Depuis son arrestation, Yoon Suk-yeol se mure dans le silence, refuse de s'expliquer devant les enquêteurs. La décision des juges est attendue dans la soirée ou demain matin.
On parle à présent d'un marathon caritatif en ligne.
Oui, nommé Stream for Humanity. Ça se passe jusqu'à demain, organisé par le streamer français Amine, un marathon à destination de la Palestine, du Liban, de la République démocratique du Congo et du Soudan. Les fonds récoltés seront reversés à Médecins sans frontières et l'événement pourrait bien battre des records. Aurélie Dumont, directrice de la collecte de fonds chez MSF, nous explique pourquoi l'association a accepté d'être bénéficiaire de l'événement.
C'est une très belle opportunité de collecte de fonds, mais c'est également une occasion de toucher, de parler avec des audiences qui ne sont pas forcément les nôtres au quotidien, des audiences plus jeunes, des publics qui ne vont pas forcément nous suivre sur des canaux plus traditionnels. Et donc c'est une véritable occasion aussi de faire connaître notre travail, les situations dans lesquelles on œuvre auprès des communautés qui suivent ces streamers. Et puis il y a une interaction qui est très immédiate aussi, avec la possibilité de communiquer sur des chats qui permet aussi un échange qui est de nature différente de celle qu'on peut avoir. Ce sont des opportunités d'échange, de mise en lumière, de contexte d'intervention, de ce que peut faire Médecins sans frontières sur le terrain et évidemment de mobilisation de ressources qui nous permettent d'agir.
Aurélie Dumont, directrice de la collecte de fonds chez MSF, interrogée par Timéo Guillon. Et si vous voulez suivre et soutenir ce marathon, rendez-vous sur la chaîne Twitch d'Amine, Squeezie ou encore InoxTag. C'est jusqu'à demain soir.
Et ça se passe jusqu'à jeudi prochain à Ouagadougou.
Et sans transition, la 13e édition du FIDO, le Festival International de Danse de Ouagadougou, débute aujourd'hui. Une trentaine de compagnies vont se produire gratuitement au Centre de Développement Chorégraphique La Termitière, danse traditionnelle, contemporaine ou encore danse urbaine. Toutes les formes d'expression corporelle seront présentées. À noter donc que ce festival est gratuit. Écoutez, Irène Tassembedo, c'est la directrice du FIDO.
On a aussi des spectacles que nous allons faire dans le quartier Kamsonre, qui est un quartier populaire, c'est mon quartier d'enfance. Partager des spectacles de danse dans ce quartier-là, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, nous allons aller vers eux pour les inciter à venir nous voir dans nos théâtres plus tard. Nous allons faire aussi quelques spectacles au Grand Marché de Ouagadougou. Un autre spectacle à la Cité en deux, c'est un autre marché de légumes où il y a plein de femmes. Et nous allons travailler aussi à la MACO, à la Maison d'Arrêt. Nous allons faire aussi des spectacles là-bas, dans les écoles. Voilà, on essaye de sortir un peu du cadre du théâtre et aller vers les spectateurs où qu'ils sont. C'est vraiment ça et on se rend compte depuis des années qu'en fait, on se fait des idées et que nous avons un très, très, très grand public dans les quartiers. Des gens qui viennent nous voir, qui apprécient, qui viennent avec leur tabouret s'asseoir et regarder les spectacles. Donc, peut-être que nous aussi, les artistes, nous devrions redimensionner tout ça, repenser tout ça et trouver les moyens d'aller vers le public.
Irène Tassembedo, directrice du Festival international de danse de Ouagadougou, au micro de Frédéric Gara. Et puis, qui arrêtera Gaël Monfils à 38 ans, le Français 41e mondial vient de signer contre l'Américain Taylor Fritz. Sa première victoire en grand chelem contre un membre du top 5 depuis 2008. C'est à l'Open d'Australie, qualification pour les huitièmes de finale.
Incroyable. Merci Jeanne Bartoli. À tout à l'heure. RFI Matin, troisième et dernière heure. Dans un quart d'heure, un nouveau point sur l'info africaine et sur cette tournée ouest-africaine qui s'achève pour le général Al-Bourhan, chef de l'armée au Soudan, en guerre depuis bientôt 2 ans. Quels objectifs derrière ce voyage? On en parle avec Alexandra Branjon à 7h30, temps universel. Juste après le journal Afrique, ce sera le journal des sports avec Baptiste Leduc. Et d'ici là, notamment, notre rendez-vous du week-end avec le monde des jeux vidéo. Bienvenue dans le game. Et une question aujourd'hui, comment concilier écologie et gaming? Jennifer Lufaux passe en revue pour nous les initiatives existantes et les bons gestes à adopter en tant que joueur. Et puis à suivre également notre reportage culture au festival Eurosonic aux Pays-Bas avec le premier album de Martha Darrow, chanteuse belge d'origine angolaise. Mais tout de suite, c'est la revue de presse. Le tour de la presse internationale avec vous, Catherine Potet, à la une, Le Monde selon Trump.
C'est lundi que le président élu sera officiellement investi, mais d'ores et déjà, les journaux se font l'écho des changements à venir. Il y a bien sûr le Proche-Orient et l'accord entre Israël et le Hamas qui portent la marque de la future administration Trump, mais ce n'est pas tout. Le Wall Street Journal annonce que le président américain va commencer dès mardi les expulsions à grande échelle. Chicago, nous dit-on, sera l'une des premières cible. L'opération devrait débuter mardi matin et durer toute la semaine. Les services de l'immigration et des douanes enverront entre 100 et 200 agents sur le terrain. Le New York Times, de son côté, précise que des opérations de ratissage ont déjà eu lieu en Californie et qu'elles ont activé les craintes des travailleurs migrants sans papier. Une question dont la Repubblica en Italie se saisit également en précisant que ces opérations de ratissage serviront à envoyer un message aux villes sanctuaires, ces villes démocrates qui protègent les migrants, refusant d'aider les autorités fédérales à faire appliquer les lois sur l'immigration. La Repubblica précise aussi que Giorgia Meloni, la première ministre italienne dont la lutte contre l'immigration est l'un des chevaux de bataille, sera l'une des invitées de Donald Trump lundi à Washington.
Le retour au pouvoir de Donald Trump suscite également des espoirs auprès de certains Américains.
C'est le cas des militants anti-avortement qui désormais demandent aux Américains de signaler les avortements de leur petite amie ou de leur épouse. C'est ce que nous explique le Washington Post. Cette stratégie, précise le quotidien américain, a déjà donné lieu à un procès inédit intenté le mois dernier par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui a cité des informations de première main provenant d'un père biologique pour accuser un médecin de New York d'avoir fourni une pilule abortive à une femme de la région de Dallas. Cette approche, poursuit le Washington Post, passera à une phase plus visible le mois prochain, lorsque la plus grande organisation anti-avortement du Texas lancera une campagne publicitaire sur Facebook et X pour interpeller les maris, petits amis et partenaires sexuels des femmes qui ont avorté dans l'État, dans le but d'intenter des poursuites contre ceux qui auront aidé ces femmes à mettre fin à leur grossesse.
Et il y a aussi, Catherine, des détenus qui attendent avec impatience le retour de Trump.
Oui, ce sont les insurgés du Capitole qui trépignent d'excitation en attendant leur grâce. Titre Libération, le quotidien français nous rappelle que le 6 janvier 2021, des hordes de supporters de Donald Trump, convaincus que son élection lui avait été volée, ont envahi le Capitole, saccageant au passage ce qui pouvait l'être et intimidant les membres du Congrès présents sur les lieux. Un peu plus d'un millier d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison et ont été incarcérés. L'envoyé spécial de Libération a rencontré Nicole Réfit, 52 ans, qui passe ses journées devant le mur de la prison pour soutenir les détenus du 6 janvier. Pour les désigner, elle parle d'otages ou de prisonniers politiques. L'un d'eux appelle sur son portable et Nicole branche le portable sur un haut-parleur. Il s'agit de Dominique Box, 34 ans. « Je rentre bientôt chez moi à Savannah, en Géorgie », dit-il à Libération. « Je suis sur le point de sortir. D'ailleurs, tous ceux qui sont avec moi ici sont sur le point de sortir. » Un autre prisonnier, Robert Turner, 39 ans, assure se sentir formidablement bien. « C'est le retour de l'Amérique », s'exclame-t-il. « Donald Trump veut que le pays redevienne un modèle de liberté et un exemple pour tous. » À la fin de ces échanges, raconte Libération, les détenus entonnent, beuglent bientôt l'hymne national de la première à la dernière strophe. Puis Nicole souhaite bonne nuit à toutes ses ouailles et raccroche.
Catherine Potet pour la revue de presse. Merci beaucoup, à demain.
RFI Matin.
Jusqu'où va la science? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Julien.
Les scientifiques s'intéressent à nos oreilles. Deux études complémentaires parues les 9 et 10 janvier dans les revues Nature et Science révèlent que les oreilles des mammifères sont faites d'un cartilage très particulier que l'on ne retrouve que dans les branchies des poissons.
Inattendu, oui, et même inouï, car l'origine de l'apparition et de l'évolution des oreilles externes restait jusqu'à présent un mystère. Rappelons que seuls les mammifères sont dotés de ces deux organes proéminents, complexes et flexibles, qu'on appelle oreilles externes. Essentielles pour entendre et nous entendre, être alertés d'un danger, mais aussi pour nous humains, pour écouter de la musique ou la radio. Les oreilles, chez les chiens par exemple, servent aussi selon qu'elles sont dressées ou abaissées, à signaler leur humeur. Chez les chauves-souris, leurs oreilles antennes extraordinairement sophistiquées leur permettent d'écolocaliser leur proie, tandis que les grandes oreilles des éléphants leur servent aussi d'éventail pendant les fortes chaleurs, polyvalentes les oreilles et surtout étonnamment flexibles. C'est en étudiant des oreilles de souris que le biologiste du développement Maxime Plicius et ses collègues de l'Université de Californie Irvine ont découvert que leur cartilage est totalement différent des autres cartilages du corps, tous très secs et cassants. Les cellules qui composent le cartilage des oreilles des souris, comme des humains, sont pleines de lipides. Pour vous donner une image, c'est un peu comme un film à bulles. Chaque cellule du cartilage des oreilles étant remplie de lipides qui s'empilent, s'imbriquent, un peu comme des briques de Lego, ce qui assure leur flexibilité. Les chercheurs de l'Université de Californie Irvine ont également découvert dans leur étude, parue le 10 janvier dans la revue Science, que l'on ne retrouve ce genre de cartilage ni chez les reptiles ni chez les oiseaux, animaux qui n'ont pas d'oreilles externes. Il s'agirait donc d'un type de cartilage jusqu'alors inconnu qui pourrait aussi expliquer l'audition exceptionnelle des mammifères.
On peut parler d'un nouveau champ de recherche autour de ce cartilage spécifique de l'oreille externe ?
Exactement, d'autant que jusqu'à présent, le cartilage ne se fossilisant pas, il était impossible d'étudier sur le temps long de l'évolution le développement des organes cartilagineux. Quand et comment les oreilles externes se sont développées chez les mammifères restait un mystère que les outils de la génétique permettent aujourd'hui d'éclairer en les étudiant au niveau embryonnaire. C'est ainsi que d'autres biologistes du développement de l'Université de Californie du Sud, qui étudiaient la formation des branchies chez les poissons zèbres, ont mis en évidence un type de cartilage également inconnu et spécifique. Et en comparant le cartilage des branchies du poisson zèbre et celui des oreilles externes des mammifères, le biologiste G. Gage Crump et ses collègues ont découvert qu'ils partageaient des séquences entières d'ADN et que ce sont bien les mêmes gènes exprimés différemment avec plus ou moins de lipides dans leurs cellules qui produisent les branchies chez les poissons et les oreilles externes chez les mammifères. La conclusion de leur étude parue le 9 janvier dans la revue Nature ouvre d'étonnantes perspectives, notamment pour réparer d'autres cartilages du visage et du cou, grâce donc à nos oreilles, qui sont, je cite cette étude, le reste évolutif des tout premiers cartilages du vivant, à bon entendeur.
Merci Caroline Lachowski. Bienvenue dans le game, comme chaque samedi. Bonjour Jennifer Lufaux.
Bonjour Julien.
Aujourd'hui, vous abordez un sujet essentiel, Jennifer, celui de l'écologie dans le monde des jeux vidéo.
Et oui, le jeu vidéo, au-delà d'être un loisir incroyable, a aussi un impact environnemental. L'industrie du jeu vidéo représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars, mais cela a un coût écologique. La production des consoles et PC repose sur des matériaux rares, souvent extraits dans des conditions qui nuisent à l'environnement. L'électricité consommée par les serveurs du cloud gaming ou les longues sessions de jeu contribue également à l'empreinte de carbone. Et enfin, le numérique n'est pas immatériel puisque chaque téléchargement de jeu ou mise à jour nécessite des serveurs qui tournent en permanence. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut compter en moyenne 5 kW par an pour un joueur occasionnel avec une console peu énergivore, jusqu'à plus de 1000 kW par an pour un passionné muni d'une console dernier cri. Multipliez cela par des millions de joueurs et vous obtenez une quantité quantité d'énergie colossale.
Heureusement, plusieurs acteurs de l'industrie ont décidé de s'impliquer.
Oui, Microsoft, avec son programme Carbone Négative, prévoit que ses consoles Xbox soient neutres en carbone d'ici 2030, et cela passe par des chaînes de production plus propres et des emballages entièrement recyclables. Sony aussi, avec son initiative Playing for the Planet, travaille à rendre les PlayStation moins énergivores en mode veille, tout en sensibilisant les joueurs à travers leurs jeux. Aujourd'hui, on peut aussi afficher des messages écologiques dans les jeux, comme c'est le cas pour Beyond Blue ou encore Endling Extinction is Forever, qui nous amène à réfléchir sur la préservation des océans ou des espèces animales. Ubisoft s'est également associé à des organisations environnementales pour inclure des éléments éducatifs sur le changement climatique dans des jeux comme Riders Republic. Des serveurs plus verts sont proposés par des géants comme Google Stadia ou encore Microsoft qui investissent dans des data centers alimentés par des énergies renouvelables. Tout cela permet de réduire l'impact du cloud gaming, bien qu'il reste encore du chemin à parcourir.
Et nous, en tant que joueurs, Jennifer, comment pouvons-nous contribuer ?
Eh bien, voici quelques idées. Tout d'abord, pensez à optimiser votre consommation d'énergie. Activez le mode veille éco de vos consoles. Ces modes consomment jusqu'à 75% d'énergie en moins que les modes classiques. Éteignez aussi vos appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés, plutôt que de les laisser en veille prolongée. Privilégiez aussi les versions numériques, mais avec modération. Les versions physiques impliquent un transport des matériaux, mais les versions numériques demandent des serveurs gourmands en énergie. Choisissez selon vos besoins et téléchargez uniquement les jeux auxquels vous êtes sûr de jouer. Troisième conseil, eh bien, rejoignez des communautés engagées. Que ce soit pour planter des arbres ou soutenir des organisations via des streams caritatifs, ces communautés montrent que le gaming peut devenir une force positive pour la planète. L'industrie du jeu vidéo commence à comprendre son rôle dans la transition écologique, mais ce n'est que le début. Avec des innovations comme les énergies renouvelables pour alimenter les serveurs ou des consoles conçues pour durer plus longtemps, le futur peut être prometteur.
Jennifer Lufo, bienvenue dans le game. Merci pour tous ces conseils. Bientôt 7h30, en temps universel et un nouveau journal sur RFI dans 5 minutes, un peu moins. D'abord notre reportage culture cap sur les Pays-Bas et sur Eurosonic, l'un des plus grands festivals de découverte musicale en Europe. Plus de 300 artistes émergents de tout le vieux continent au programme et parmi eux, Martha Darro, chanteuse belge d'origine angolaise. Elle présente sur scène son premier album intitulé Philophobia. José Marinho.
Martha Darro est une chanteuse belge d'origine angolaise de 30 ans. Son premier album, Philophobia, est dépouillé et magnétique. Les sonorités empruntent autant à la soul qu'au trip-hop.
J'aime bien ne pas rester dans une case et un peu explorer dans différents genres.
Mais ce qui la caractérise, c'est sa voix atypique.
C'est ma force, ouais.
Son timbre singulier rappelle celui de Beth Gibbons, la chanteuse du célèbre groupe britannique Portishead.
Je suis fan de trip-hop, donc je prends le compliment, merci.
Martha Darro est une artiste aux multiples facettes. Elle est chanteuse et autrice, mais aussi actrice.
Je fais aussi du cinéma et là, j'ai commencé à créer des pièces de théâtre. Ça sert pour la scène, de pas raconter seulement une histoire avec ma voix, mais aussi avec tous les autres éléments, que ce soit la lumière, que ce soit avec des gestes, que ce soit avec la musique. Donc la musique fait partie de un peu tout ce que je fais.
Et tout ce qu'elle fait a commencé en 2015. Depuis, cette artiste adopte une approche cinématographique pour explorer sa bande-son introspective et nous mène à des moments de joie et d'hallucination dignes d'un film de science-fiction, comme ici sur ce titre. Philophobia lui donne aujourd'hui l'occasion de mettre en avant son histoire. Et son vécu est lié à celui de sa famille qui a fui la guerre civile en Angola dans les années 90.
Ouais, mon parent, ma famille viennent tous d'Angola. Ils sont partis à cause de la guerre civile. Du coup, ils sont venus ici en Belgique. Cette année, j'y vais pour la première fois. J'ai hâte de voir ma famille en vrai. J'essaie d'être cette double culture. C'est un truc que je suis, puisque je recherche. Du coup, là, je vais un peu reconnecter.
Se reconnecter à ses racines résume bien son disque sensible. Sur ses attentes après son concert au festival Eurosonic, elle ne cache pas ses ambitions.
Voir le monde, ouais. Voir le monde et que le monde me voit.
Honnête et profonde, Marta Daro signe un album à son image. Il regorge de lumière sous ses compositions mélancoliques. José Marinho, Eurosonic, Pays-Bas, RFI.
Daro et son premier album Philophobia dans notre reportage culture. Restez avec nous sur RFI, le journal, dans 30 secondes à présent. A tout de suite.
Édition spéciale, investiture de Donald Trump. Romain Ozoui.
La planète a les yeux braqués sur l'Amérique. Donald Trump va officiellement devenir le 47e président des États-Unis à 17h temps universel ce lundi 20 janvier. Un événement qui pourrait constituer un tournant dans la géopolitique mondiale. Les discours, les analyses, les réactions. La prestation de serment est à suivre en direct avec nos envoyés spéciaux sur RFI.